Bonjour. Eh bien, je m'appelle Aurélien Lang. Je travaille au foyer évangélique universitaire de Grenoble et c'est un privilège, une joie de venir ce matin. Merci pour vos prières, pour vos chants qui sont franchement édifiants. Et j'espère que vous ne prendrez pas ça comme une routine de ma part de venir voilà, de temps en temps dans votre assemblée, parce que je le pense sincèrement, on aimerait encore une fois, de la part du foyer évangélique universitaire, remercier votre assemblée pour son ministère dans la ville de Grenoble, vous remercier pour votre partenariat dans l'évangile et votre soutien pour notre ministère au feu de Saint-Martin-d'Hères. Merci en particulier aux anciens, à Stéphane qui assiste régulièrement à nos conseils pour les grandes décisions du feu. Merci pour l'amitié du pasteur Raphaël et aussi pour le groupe d'étudiants et de jeunes actifs. Nous sommes reconnaissants pour tous les témoignages d'amitié que nous recevons de votre part tout au long de l'année et aussi à certains étudiants qui participent à nos activités du feu. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait remercier le Seigneur de notre côté du ministère cette année au foyer. Cette année, ça a été particulier, on a eu une équipe élargie, ce qui nous a permis de faire plein de choses, et on a vu la main du Seigneur dans plusieurs endroits. On a vu beaucoup la joie de voir beaucoup d'étudiants venir encore cette année participer à nos études, à nos groupes découvertes, à notre banque alimentaire. Et c'est vraiment l'œuvre du Seigneur, c'était vraiment chouette. On a été bénis par l'arrivée, maintenant ça faisait 2 ans qu'ils étaient avec nous, de Josué et Dorine Ploquet, qui étaient les stagiaires de Nicolas Van Wingarden. Et Josué et Dorine vont partir à la fin de l'année. On est triste de les voir partir, mais on est heureux pour la ville de Marseille, puisque la ville de Marseille va accueillir un nouveau feu. Et donc, c'est Josué et Dorine qui vont démarrer l'implantation de ce nouveau feu dans la ville de Marseille. Aussi, cette année, parmi nos nouvelles, on a eu un changement de présidence. Voilà, après 30 années de service fidèle, Jean-Luc Tabayou a laissé sa place à Nicolas Van Wingarden pour la présidence. Et donc, nous avons un changement de présidence. Et on est vraiment vigilants et on prie pour que cette transition se passe bien. C'est aussi une dernière info. Je pense que c'est un bruit qui court un peu dans nos églises, mais effectivement, nous allons aussi avoir la joie de démarrer l'année prochaine. Nous sommes en train de finaliser quelques plans par rapport à démarrer une extension du ministère du feu plus au nord de la ville de Grenoble, donc un feu bis, un feu satellite qui sera en partenariat avec l'église du Drac. Donc l'église de Drac accueillera un ministère étudiant associé au feu dans son local et on est très content pour ça. Voilà pour nos nouvelles, des sujets de prière pour nous et aussi pour vous. Et j'aimerais encore une fois vous dire merci, c'est un privilège d'ouvrir la Bible avec vous et je vous invite à si vous en avez une, à l'ouvrir en Ésaïe au chapitre 40. On va faire la lecture de ce chapitre, un merveilleux chapitre, et on va méditer ensuite ce chapitre. Ésaïe 40. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Une voix a dit, « Proclame un message. » Et j'ai répondu, « Que dois-je proclamer ?» Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'Esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel, et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui, elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan, assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère et le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qu'il souffle sur eux. Ils se déchaînent alors. Le tourbillon les emporte comme un brin de paille. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ? » C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force est si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob ? Et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Jusqu'ici notre lecture. Cette semaine, j'ai reçu un email qui m'a attristé. Une famille de mon ancienne église a annoncé que leur fils, qui faisait partie de mon groupe de jeunes, a mis fin à ses jours. Et alors que je priais cette semaine pour cette famille, je me disais, waouh, cette famille a besoin de consolation. J'ai besoin de consolation. Nous avons besoin de consolation. Cette triste nouvelle nous rappelle qu'on vit dans un monde qui ne tourne pas rond. Un monde dans lequel on se pose parfois la question, et il est où, Dieu ? Que ce soit au niveau sociétal, au niveau ecclésial, familial ou individuel, on vit parfois des circonstances, des temps de crise qui nous font poser la question, il est où, Dieu ? Et peut-être, c'est votre situation ce matin. Peut-être vous aussi, vous vous sentez ainsi, profondément attristé, abattu, désespéré à cause d'une crise, d'une souffrance ou d'une épreuve. Ou plus simplement, peut-être vous vous posez la question, vous êtes en train de vous poser la question, il est où, Dieu, dans ce monde ? Et si c'est votre situation ce matin, ou si vous vous posez cette question plus générale, est-ce que je peux vous inviter à bien regarder ce texte de Ésaïe, puisque c'était aussi la situation des auditeurs de Ésaïe ? Et si vous voulez voir donc comment se sentent les auditeurs d'Ésaïe, comment ils se sentent, je vous invite à regarder encore ce verset 27 qui nous décrit un peu la situation de ce peuple. Verset 27 du chapitre 40. « Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël, ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ?» Vous voyez les sentiments qui traversent ce peuple. Dieu, mais que fais-tu ? Où es-tu ? J'ai l'impression que ma situation t'échappe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça, c'est la situation du peuple. Pourquoi le peuple se sent comme ça dans ce texte ? Eh bien, en Ésaïe 39... Dieu a annoncé au roi Ézéchias que Jérusalem allait être détruite et que le peuple allait partir en exil à Babylone. Babylone, c'est à l'époque la grosse brute épaisse dans la cour de récré, une nation brutale qui, une fois ayant envahi un peuple, délocalisé ce peuple pour l'envoyer en exil dans son pays. Et cet exil est anticipé ici dans ce texte, ça va être un temps de souffrance, un temps d'abattement, de désespoir. Et ici, en Ésaïe, on est en 700 avant Jésus-Christ. Mais l'exil interviendra plus tard, en 597 et en 587 avant Jésus-Christ. Et donc, on a Ésaïe ici dans ce texte qui ne connaîtra pas l'exil puisque c'est un contemporain de Ézéchias. Ésaïe qui commence à préparer ce peuple à vivre ce temps d'exil, un temps de souffrance, un temps où tout va s'écrouler autour de ce peuple, où ils vont se poser la question, il est où, Dieu ? Un temps de désespoir. Et donc en réponse, ce chapitre 40 est un message de consolation, de réconfort, un message censé restaurer, parler au cœur du peuple et au nôtre ce matin, un message pour nous revivifier, nous redonner de la force spirituelle et morale. Autrement dit, ce chapitre 40, c'est un remède au désespoir. Et un mot que je suggère pour résumer toute cette section, c'est le mot « incomparable ». D'abord, il est question d'un salut incomparable, versets 1 à 11. Et puis d'un Dieu incomparable, versets 12 à 31. Donc comment Ésaïe accomplit-il son but ? Comment vivifie-t-il celui qui est abattu ? Comment console-t-il celui qui a perdu ses forces, qui se sent abattu ? En l'exposant au salut incomparable, opéré par un Dieu incomparable. D'abord, premièrement, un salut incomparable. Cela ne nous a probablement pas échappé, mais aujourd'hui, c'est le jour, un jour d'élection, c'est le jour des législatives. Et on a différents candidats qui s'engagent pour régler les problèmes de la société française. Il y en a certains qui arrivent avec des idées, financer l'éducation. Non, plutôt, il faudrait relancer l'économie. Et puis, non. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est assainir la vie politique. Ça, c'est différents candidats qui identifient un problème et qui apportent différentes solutions. Et la Bible propose, elle, un diagnostic plus pénétrant et une solution radicalement différente, en fait. Le problème de la société est plus grave qu'un mauvais financement ou que de mauvais choix de société depuis plusieurs années. Pour Ésaïe, il s'agit d'un problème plus grave encore que seul un Dieu peut régler. Le problème du peuple en Ésaïe, dans ce texte, n'est pas simplement un problème de conflit politique international, d'exil. C'est d'abord et surtout un problème de rupture, de péché que Dieu veut régler. Si le monde ne tourne pas rond, c'est à cause de ce péché, de cette rupture d'avec Dieu. Voilà le diagnostic plus profond que fait Ésaïe et la Bible. Et en Ésaïe 40, Dieu annonce que justement, il a l'intention de traiter ce problème du péché d'une manière inédite. Un jour, l'exil va cesser. Le peuple va revenir et Dieu va régler une fois pour toutes ce problème. Le problème du peuple. Et en fait, notre problème aussi, encore au XXIe siècle, fondamental, c'est notre péché. Et Ésaïe peut consoler le peuple en annonçant un pardon futur. Verset 2. « Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Littéralement, et peut-être vous avez cette traduction dans votre Bible, « le double de ses péchés. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire, le double de ses péchés? Eh bien, l'expression, j'ai appris en étudiant ce texte, renvoie à l'image en fait, d'une feuille qu'on plie en deux. Vous voyez, les parties se correspondent exactement. Dieu va exactement donner au peuple le pardon qui correspond à ses péchés. Il va les pardonner, les rétablir totalement. Dieu console ici en annonçant un salut incomparable. Et je ne sais pas si vous avez entendu dans la lecture, mais c'est une section en fait qui est très vocale. On a le verset 2, « Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui !» Observez la structure du texte, il est question de discours autour de trois voix. Première voix, verset 3, « Une voix crie dans le désert. » Deuxième voix, verset 6, « Une voix a dit. » Et troisième voix, verset 9, « Élève avec force ta voix, Jérusalem. » Une section très vocale, trois voix qui sont là pour soutenir, pour appuyer, pour donner de la force à ce message, consoler, consoler mon peuple. Écoutons rapidement ces trois voix. Première voix, versets 3 à 5. Ce que nous avons dans ces versets 3 à 5, c'est une procession royale. Et on est habitué à voir le tapis rouge déroulé pour de grands événements, comme au Festival de Cannes, ou lors de la visite d'honneur d'un leader politique à l'Élysée. Mais ici, ce n'est pas le tapis rouge qui est déroulé, c'est carrément les éléments physiques qui sont chamboulés. Verset 4, « Les vallées sont comblées, les collines et les montagnes sont abaissées, les chemins tortueux sont redressés. » Et pendant que les ingénieurs civils se grattent la tête devant un tel spectacle ahurissant, la voix nous explique ce chamboulement géographique, versets 3 et 5. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et plus loin, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. » Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Donc, que dit cette première voix? Dieu en personne va intervenir. Sa gloire va être révélée. Il va régler les problèmes du peuple. Tenez bon. Tenez bon, le peuple. Ça va aller. Dieu va intervenir. Mais peut-être on se demande, est-ce que Dieu, il est vraiment fiable? Après tout, il a laissé son peuple être emporté en exil loin de Jérusalem, loin du lieu de sa présence, loin du lieu où son plan se déroule. Eh bien, regardez ce que répond la deuxième voix, versets 6 à 8. Une voix a dit « Proclame un message » et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ?» Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je pense que nous connaissons tous l'expression « les paroles s'envolent, seuls les écrits restent ». Mais avec la promesse de Dieu ici, selon Ésaïe, c'est plutôt la parole des hommes s'envole, leurs écrits aussi d'ailleurs, et seule la promesse de Dieu, seule la parole de Dieu subsiste éternellement. Pourquoi cette annonce est fiable? Cette annonce est fiable, elle est spectaculaire. Cette annonce spectaculaire de la venue de la gloire de Dieu, ce n'est pas l'affirmation d'un homme, mais elle repose sur un fondement plus sûr, plus stable, plus fiable, sur celle d'un Dieu qui parle et qui s'engage lui-même. Cette promesse, elle est fiable parce que c'est Dieu qui s'y engage. Et c'est parce que Dieu s'engage par sa parole que cette venue doit être prise au sérieux. Dieu est fiable. Sa promesse n'est pas annulée. Il va intervenir. Il n'en a pas fini avec son peuple. Et voici la réponse de Jérusalem avec cette troisième voix, versets 9 à 11. On a maintenant Jérusalem, la ville qui représente dans le texte d'Ésaïe le peuple de Dieu. C'est Jérusalem qui est appelée à monter à Sion pour proclamer cette bonne nouvelle de consolation. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Jérusalem se saisit de cette promesse et se met à proclamer la bonne nouvelle de l'intervention de Dieu. Reste à savoir quand. Mais quand cette intervention est-elle prévue? Quand le peuple va-t-il voir cette gloire, cette intervention de Dieu en personne? S'il vous plaît, imaginez un instant un Martien qui ferait un voyage de sa planète vers la nôtre. Et durant ce voyage, en fait, il va prendre le temps d'apprendre toutes les habitudes des êtres humains pour se préparer pour ce voyage. Il apprend les traditions culinaires, les codes vestimentaires, et puis il apprend aussi quelques rites et traditions comme la grève en France. De sorte que quand il arrive sur Terre, il se rend à H&M pour s'acheter des habits, et puis au McDo pour manger. Et puis, comme c'est un étudiant, il va prendre le tram pour aller sur le campus, et il a bien pensé à acheter son ticket pour le voyage. Après tout, les infos et indices au sujet de la vie terrestre apprises pendant son voyage l'ont préparé à vivre ce moment. Eh bien, c'est pareil avec Ésaïe, en fait, ici dans ce texte. Il nous donne toutes les infos nécessaires pour comprendre quand sera ce jour royal de la venue de Dieu en personne. Ce jour-là, apprend le Martien, il y aura un changement dramatique. La réalisation de la promesse de Dieu, la venue de Dieu en puissance comme un roi, mais aussi verset 11, pareil à un berger. Il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Il est où, Dieu? Pour nous. Il est là, en Jésus-Christ. Ce chapitre est truffé d'indices qu'on n'a pas le temps d'explorer plus en profondeur, truffé d'indices pour nous montrer que c'est Jésus-Christ, la révélation suprême de la gloire de Dieu. Juste un exemple. Écoutez comment Jean démarre son évangile. Écoutez simplement chapitre 1, verset 1, qui nous dit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14 de ce même chapitre, il nous dit « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé quoi ? Sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Dieu intervient en personne pour nous sauver. Il intervient pour en finir avec notre péché et nous offrir une vie nouvelle. C'est le remède au désespoir, un salut incomparable. Mais Ésaïe est trop conscient, en fait, de notre difficulté à croire cette vérité, cette nouvelle, que tous nos péchés, passés, présents, futurs, peuvent être totalement effacés. Alors, dans la fin de ce chapitre, il va s'efforcer de nous convaincre en nous dévoilant le Dieu qui est derrière ce salut. Deuxièmement, le Dieu incomparable, versets 12 à 31. Dans cette deuxième partie de ce chapitre 40, c'est un plaidoyer, en fait, entre Dieu et son peuple. Quel est l'enjeu ? Convaincre le peuple qui sera perplexe au moment de l'exil, qui, je le rappelle, en fait, est une réalité future pour le peuple qui écoute Ésaïe au chapitre 40. Et par la même occasion, ce texte est là aussi pour nous convaincre, nous aussi. Ésaïe veut nous persuader que Dieu a la puissance pour être ce remède au désespoir. Observez le contraste entre Dieu et tout ce qui peut apparaître dans ce monde comme puissant. D'un côté, on a la toute-puissance incomparable de Dieu. Verset 12. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? C'est le genre de question qui demande de nous de répondre. Alors, allez-y, répondez. Ce matin, qui a déjà pris l'océan Atlantique dans sa main pour prendre sa mesure? Qui? Qui a placé la Terre par rapport au Soleil d'une telle manière que si la Terre était plus loin ou si la Terre était plus proche du Soleil, eh bien, la vie n'aurait pas pu apparaître sur Terre? Qui? Qui a pesé les Alpes sur lesquelles on dévale les pentes quand on fait du ski? Qui a pesé les Alpes sur sa balance ce matin? Est-ce que vous voyez cette puissance? Ésaïe est en train de nous dire que le Dieu qui a créé tout l'univers dans sa globalité, c'est ce Dieu puissant qui va accomplir ce salut. Ésaïe n'exalte pas seulement la toute-puissance de Dieu, il exalte aussi sa sagesse et son omniscience, versets 13 à 14. Qui a compris l'Esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Dieu a-t-il eu l'assistance d'une équipe du CNRS pour créer le monde? De quel prix Nobel de la paix a-t-il reçu l'instruction? Qui était là au commencement pour l'aider dans l'élaboration de son plan? Qui? Incomparable dans sa puissance et sa sagesse. Voilà le Dieu qui va intervenir. Et un moyen qu'utilisent les pédagogues, en fait, pour enseigner un exemple positif, c'est en montrant un contraste avec un exemple négatif. Et c'est ce que fait Ésaïe aussi, ici. Il nous montre le positif, le Dieu incomparable, par cette série de questions. Et maintenant, il va offrir un contraste avec le négatif dans les versets suivants. Et si d'un côté on a la toute-puissance incomparable de Dieu, de l'autre on a la faiblesse saisissante des nations, c'est-à-dire de tout ce qui s'oppose dans ce monde à Dieu. Verset 15, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Alors pour mesurer la force de ce verset, j'aimerais vous inviter à vous souvenir des jeux d'enfants sur la plage. Quand ils essayent de remplir avec des seaux d'eau les douves de leur château qui, en fait, le sable boit toute l'eau et ils n'arrivent jamais à remplir totalement les douves. Revoyez un peu ces allers-retours que font ces enfants et ce seau et avec les gouttes qui jaillissent de ce seau. Eh bien, ça, dit Esaïe, ça, ce sont les nations, ces gouttes d'eau qui sortent de ce seau. C'est tout ce qui s'oppose à Dieu. L'athéisme, la sécularisation, le paganisme, ou toute idéologie, religion opposée au Dieu de la Bible. À quoi ça ressemble une nation qui s'oppose à Dieu ? Oh, vous vous souvenez de la poussière sur les meubles que vous avez soigneusement rangés dans votre grenier ou votre garage ? De la poussière qui se dépose année après année dessus ? Soufflez dessus et observez la puissance des nations. Voyez le contraste ? Dieu ne joue pas dans la même catégorie. Il est unique. À qui voulez-vous comparer l'incomparable ? Aucune nation, aucune religion, aucune idéologie, aucun empire ne joue dans sa catégorie. Verset 18 encore. À qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle représentation pourriez-vous le comparer ? Vous voulez confier votre vie dans un autre Dieu, dit Esaïe ? Allez-y. Dans une idéologie, une religion créée par l'homme ? Allez-y, allez-y. Ces dieux sont inventés dans l'esprit de l'homme pour être quoi ? Immobiles. Ne comptez pas sur ces dieux-là pour vous sauver. Ils ne bougeront pas. À la fin du verset 20, il dit que la personne qui construit une idole sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Regardez en surface, ça a l'air impressionnant quand même. Il y a de l'or, il y a de l'argent, c'est fait d'un bois qui ne pourrit pas, c'est artistique, c'est même design, c'est attrayant, c'est attractif. Mais nous dit Esaïe, il serait absurde de mettre sa foi dans cette création, dans cette chose créée par la main de l'homme pour obtenir son salut. Elle ne bougera pas. Vous pouvez prier l'idole. Vous pouvez la supplier de vous sauver. Rien n'y fera. Elle ne bougera pas le petit doigt pour vous sauver. Elle est créée dans l'esprit de l'homme, en réalité pour qu'elle ne soit pas branlante. Les idoles des nations, leurs idéologies qu'ils sont opposées au Dieu de la Bible ne pourront pas nous sauver. L'homme providentiel n'existe pas. Une idéologie salutaire, impossible de nous sauver. Une religion non biblique, même chose. Vous croyez en la technologie pour résoudre les problèmes de l'humanité ? Il n'y a pas d'application pour ça. Ne comparez pas l'incomparable aux idoles. Il est bien entendu facile de tenir un tel discours dans une église. Beaucoup d'entre nous, je crois, sont chrétiens et sont d'accord. Mais faisons un rapide bilan de notre vie. Quand nous sommes au milieu d'une crise, en qui nous confions-nous réellement ? À qui faisons-nous appel pour nous sauver ? Peut-être c'est autre chose que Dieu. Quelque chose que nous avons inventé, que l'homme a créé de ses mains, qui semble attrayant à première vue pour remplir ce mandat de nous sauver, mais qui au final a été créé pour être immobile. Personnellement, quand je regarde même brièvement à ma vie, je sais au fond de moi que parfois j'ai tendance à placer ma confiance dans d'autres dieux. Je ne mesure pas assez que seul un Dieu incomparable peut opérer ce salut dont j'ai le plus besoin. Verset 21. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'avons-t-on pas révélé dès le début ? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre ? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Dieu voit tout. Il est au courant de tout. Il contrôle tout. Son leadership est efficace. Et si vous voulez savoir à quoi correspondent les dirigeants de ce monde à ses yeux, verset 23, c'est assez incroyable. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre, qu'il souffle sur eux, et ils se déchèchent. Alors le tourbillon les emporte comme un brin de paille. Si vous voulez voir du vrai leadership, de l'exécutif, quelque chose qui subsiste, qui tient la route, bah, ce n'est pas à la Maison-Blanche, ni au Kremlin, ni à l'Élysée, ni au Boutenstag que vous en trouverez. Dieu souffle et comme un brin de paille, les dirigeants de ce monde s'envolent. Nos musées sont remplis de civilisations et de dirigeants qui se croyaient éternels. L'Égypte, Babylone, l'Empire gréco-romain, etc., etc. Seul le Dieu éternel qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout, qui contrôle tout, seul l'incomparable réellement offrir le salut dont nous avons besoin. Et j'espère que vous sentez comme moi cette semaine, alors que je méditais ce texte, comment ce message peut redonner de l'espoir et vivifier. Seul un Dieu incomparable peut accorder un salut incomparable. En temps de crise, les faux dieux de substitution que nous inventons peuvent sembler attrayants. Mais faites confiance à Ésaïe, il ne dure pas, il ne sauve pas. Une crise économique, plus d'argent. Une rupture sentimentale et adieu la relation romantique qui donne du sens à notre vie. Une crise politique ou humaine et hop, changement de régime et d'idéologie. Si vous n'êtes pas encore convaincu que vous avez besoin de ce Dieu-là, je vous invite encore une fois à observer la stabilité, la consistance, la puissance de Dieu, de ce Dieu incomparable. Comparez pour vous-même cette semaine. Faites l'exercice. Quels sont les remèdes que vous êtes tenté de prendre quand ça ne va pas? Comparez avec le Dieu incomparable. Et surtout, prenez ce remède. Il serait absurde de savoir qu'un remède existe pour soigner le mal profond dont nous sommes atteints et de refuser de le prendre. Prenons donc ce remède au désespoir. Attendons-nous activement à Dieu, surtout si nous sommes dans la détresse. Car verset 31, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer, même au milieu des pires détresses. » Il est où Dieu ? En Jésus-Christ, le Dieu incomparable est venu opérer un salut incomparable. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous avons besoin de consolation, de réconfort, de quelque chose qui dure et qui peut nous soutenir, même dans les pires moments de la vie. Je te remercie pour ce salut incomparable que tu as accompli en Jésus-Christ avec l'intervention divine, la mort sur la croix et la résurrection, l'ouverture des cieux pour nous accueillir, pour vivre éternellement dans ta présence. Je te prie pour cette assemblée, que sa foi dans le Dieu incomparable puisse augmenter, qu'elle renouvelle ses forces en Jésus-Christ. Amen.